Bonsoir tout le monde et bienvenue au 45e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec iQuest, le cheval de course né en 1931. Ça s'ensemble quand même beaucoup, là. iQuest est connu pour avoir été le plus rapide à terminer au Preakness Stakes en 1934, mais pour ensuite avoir eu une carrière d'étalon un peu décevante. Et nous, à Divan Quest, on est connu pour avoir été les plus rapides à terminer nos carrières d'étalon décevantes. C'est quand même pas bien loin.
C'est semblable. Oui, on accepte.
Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de l'absence de Jean-François Laporte. West Jeff, is he sleeping outside? West
Jeff, has he gone for a ride? West Jeff. Mais ça dérange, au bout du compte, j'étais supposé, moi, d'être absent cette semaine. Les horaires ont comme shifté de bord, puis je commence à être là. Mais j'avais prévu quelque chose pour vous. Fait que je vous le fais jouer pareil. Parce que
Dan?
Dan? Where the hell is Dan?
Okay, j'ai réussi à trouver un Where's Dan.
Et voilà.
Tu dis où mettons, assez amateur de stop motion avec des bonhommes quand même assez drôles, puis il y en a un qui drop, qui arrive, puis c'est Dan qui sort du bordel avec un condom dans la main.
C'est un gag visuel.
C'est ça.
Alors, nous sommes le lundi 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Alors, on aimerait saluer tous ceux qui trouvent ça drôle qu'à la fête du travail, les travailleurs soient en congé, mais qu'à la Journée des travailleurs, on doive rentrer travailler. Il y a quelqu'un qui est allé vite dans les idées à quelque part, mais il n'est pas impliqué là-dedans.
Hein? C'est ça qui arrive, là.
Comment ça va, Dan?
Ben ça va. C'est printemps, les petits oiseaux, puis tout, cuit.
Quand, oui, oh oui, crise de beau printemps, fait rien que mouillé. Hey, on parle de météo, ça c'est le fun. Voulez-vous qu'on parle de météo?
Fini le podcast. Là,
qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine?
Hey, on recommence une autre fois, pays 3, mettons.
Ouais, c'est ça. Ils savent pas, là. Vend pas. Fais pas, brise pas la magie du podcasting, là.
Mais non, ça va.
Tout. OK. Puis, oui. Puis, qu'est-ce que t'as fait de beau dans les deux dernières semaines?
Ben, une couple d'affaires, rien de fou. Nouveau téléphone en partant. Donc, je me suis remis à essayer de trouver des affaires amusantes à faire sur le App Store, là. Puis, comme j'ai changé de App Store, c'est comme je suis plus habitué à essayer de trouver des affaires.
Parce que t'es de retour avec un appareil Apple.
Apple, oui. Après de nombreuses péripéties, on essaye ça. Mais j'ai quand même joué vaguement à quelques petites affaires. Pocket Morty's.
Comment?
Pocket Morty's.
Oh, oui.
Je l'avais pas essayé pour les fans de. Oui, on a Rick and Morty, finalement.
Oui.
Avec l'épisode 1 de la saison 3 qui a popé là, sur le feed pour le 1er avril. Il y a de cela un mois. Exactement. Mm-hmm. J'ai décidé de l'essayer parce que bon, j'essaie de chercher quelque chose à faire. Puis, quand même correct, là, assez amusant au départ. Le jeu, je sais pas si tu as joué.
Du tout.
C'est un jeu un peu style Pokémon où tu attrapes des Morty, puis tu les fais leveler, puis tu te battes un contre l'autre. Simple de même. Combat du même genre aussi, là, où est-ce que tu as des avantages et des inconvénients, mais beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment un style roche, papier, ciseaux, puis c'est roche, papier, puis ciseaux, les types de tes Morty.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a quand même une plus belle simplicité là. En même temps, c'est plus simple, fait que c'est plus simple, fait que ça a aussi côté des avantages de ça. Je me suis tanné crissement vite, par exemple, parce que c'est vraiment plus répétitif puis vraiment plus grindy que Pokémon. Là.
Puis, c'est un statement.
les endroits où est-ce que tu vas pour te battre, c'est un peu aléatoire. Fait que tu peux tout le temps faire la même affaire. Il se passe pas grand-chose de spécial.
Mm-hmm.
Fait que c'est un peu plate. Puis, c'est dur de pogner des nouveaux Morty. Là. En tout cas, au début, t'as pas facilement ces genres de puces que tu leur mets sur la tête pour les contrôler. Ils sont durs à pogner, ils sont durs à crafter. T'en as presque pas. Fait que finalement, tu fais comme paf. Je me suis tanné rapidement. Mais c'était quand même amusant. Là.
Mm-hmm.
Surtout en fan de Rick and Morty que je suis. Sinon, suite à mon auto-suggestion de la semaine passée, tu sais, je me suis suggéré moi-même quelque chose dans le Blender. J'ai commencé à écouter la nouvelle série de Bill Nye. Bill Nye Saves the World. J'avoue que je suis tombé en amour avec le gars. Je connaissais vaguement la personne qu'est Bill Nye là, comme étant un vulgarisateur scientifique vraiment populaire. Mais j'ai jamais vraiment connu, si on veut, parce que à l'époque où il était à la télé beaucoup, j'étais très jeune, j'écoutais pas vraiment la télé en anglais, là, à l'époque de Bill Nye, de Science Guy. Là. Donc, je le découvre, mettons, à mon âge adulte, puis j'ai écouté un épisode à date, là, fait que je suis pas vraiment très bon dans la série, mais c'est super intéressant. C'est des épisodes de 30 minutes, donc assez courts. Et ils parlent de sujets, mais ils vont justement pas super loin puis très creux dans chaque volet, si on veut, du sujet qu'ils vont explorer. Mais ils l'expliquent quand même assez bien pour donner, mettons, une information de base sur plusieurs aspects. T'sais, le premier épisode était sur le réchauffement climatique. Ils ont parlé d'un paquet de trucs.
Fait que tout le monde qui écoute cette série-là va pouvoir argumenter tous les sujets comme un cégepien qui parle de littérature. Là.
Ouais, c'est ça.
Ah, j'ai déjà lu un livre, c'était vraiment bon.
Il y a des mots dedans, puis des phrases, puis toutes des ponctuations.
Je comprends l'amour.
Mais bref, c'est intéressant parce qu'il explore aussi des éléments qu'on penserait pas. En tout cas, sur le premier épisode, c'est ce que tu vois. Il parle, par exemple, de Venise, la ville de Venise, que le réchauffement climatique puis la hausse des océans a un impact affreux sur eux autres. Puis déjà maintenant, où est-ce qu'il y a des marées qui montent, genre, à peu près au tiers des murs, des buildings. Là.
Ish.
Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont... Avec un peu la réponse technologique là, qu'ils ont faite. Bref, c'est vraiment intéressant. Il touche à plein de sujets. Le dos, c'est un pro de la vulgarisation. Puis en plus, il y a un humour vraiment, vraiment le fun. Fait que ça s'écoute bien. Puis je pense que le public cible n'est pas nécessairement le prof de science que je suis, qui a déjà une culture scientifique assez pas pire. Mais le grand public que ça pourrait intéresser. Puis que ça va aider à développer justement une culture un peu plus intéressante. Puis de voir Bill Nye péter une coche comme genre contre les Américains sur le cas du réchauffement climatique en expliquant que. Ouais, de l'incertitude scientifique, là, t'as un plus ou moins quelques pourcents, pas plus ou moins 100%, tu sais, parlant de,
mm-hmm. Tu peux pas le nier, là, c'est pas une option.
L'espèce de vague de négationnisme du réchauffement climatique aux États-Unis, c'est basé sur le fait que dans les études scientifiques sur le réchauffement climatique, il y a de l'incertitude, mais une incertitude en science, c'est juste comme.
Ouais, c'est une marge d'erreur, ouais, c'est ça, c'est pas.
Bref, c'était quand même le fun de voir péter un plomb à Bill Nye. Puis je vous le recommande une deuxième fois.
Ouais, c'est ce qui m'avait un petit peu. Ben, je veux pas dire déçu, là, mais que j'aurais pensé qu'il serait allé plus loin dans. Cosmos. La ouais, série. Ben, la nouvelle version de Cosmos avec Neil deGrasse Tyson.
Ouais.
Puis, tu sais, il glisse un petit jab à ceux qui. Aux créationnistes. Mais, genre. Il laisse trailer, là. Il fait juste comme le dire, ça va aux annonces, puis il marche off-camera, puis c'est juste comme, point de suspension, bon, il garde ça de même.
Ouais.
C'est sûr que c'était produit par Fox, qui est quand même surprenant, là, considérant la nature scientifique de toute la patente, mais bon, j'ai un peu déçu qu'il n'ait pas juste comme outright été contre ces propos-là.
Mais là, étant produit par Netflix, je pense qu'ils peuvent aller où ils veulent.
Oui, définitivement. Nice oui, ils l'ont pris pour ça, là.
Sinon, je passais par un EB Game cette semaine. Je me suis laissé tenter par la version physique de Has-Been Heroes sur la Switch.
Mm-hmm.
Je joue un petit peu, là, il y aurait vraiment de quoi à dire, puis je veux probablement y revenir. J'ai pas joué assez pour en parler. Par contre, ce que je peux dire à date, c'est que je suis un peu déçu d'avoir pris une version physique parce que je trouve que c'est un jeu, à date, là, que je voudrais qu'il soit tout le temps sur la console pour jouer un petit bout et après ça passer à autre chose.
Mm-hmm. Puis justement, il y a eu une mise à jour récemment qui paraît qu'il y a. Allégé de façon importante la difficulté parce que les premiers critiques étaient que c'est impossible.
Ouais, ben j'imagine parce que j'ai pas. Ben, c'est à date où je trouve ça difficile, mais pas impossible. Fait que je pense que j'ai joué après la mise à jour. Là.
Mm-hmm.
En fait, il y a eu une bonne mise à jour, fait que j'imagine que oui. Parlant Switch, j'ai semi-terminé, mettons, Lego City Undercover. Fait que j'y reviens tantôt, ça va être mon segment de l'épisode. C'est pas assez au côté. Côté gaming, ça a été assez relax. Par contre, ben. J'ai une nouvelle, puis j'espère ne pas te la scooper ton actualité, sinon ben tu me couperas ça au montage. Là.
je t'écoute.
Tu le sais sûrement, Mathieu, toi, fier Canadien que tu es, qu'on fête cette année le 150e anniversaire du Canada.
Ouais, je n'ai entendu parler. Mais...
Puis pour fêter le 150e anniversaire du Canada, la Banque du Canada a sorti un nouveau billet de 10$ avec des faces de plein de monde depuis tout.
Oui, oui.
Jusque-là, rien de spécial, ça arrive, ils font ça de temps en temps. Le fun pogne, je pense, là, puis pour vrai. Quand on va sur le site, puis on va sur la page où on présente le billet de banque, on peut. Sélectionner une vision 360 du billet de banque. Puis si avec notre clavier, on fait O, Baba, gauche, droite, B, A et Enter, on obtient ceci. J'avais comme clippé au complet en me demandant, je me demande combien de temps je peux laisser jouer avant que Mathieu me coupe, puis finalement je me trouvais même plus drôle moi-même. Je me suis tanné aussi tout seul. Mais c'est quand même amusant, là, puis tu sais, il y a du côté.
Puis il se met à pleuvoir des 10 piastres en polymère.
Il pleuvoir des 10 piastres en polymère. Faire attention qu'il est plus acide, ça pourrait détruire le polymère.
Oh.
Ça fait mal, hein?
Ou des 10 piastres en ta mère. Mais ça, c'est beaucoup plus dangereux.
C'est pas très poli. Bon, plus dangereux.
Je pensais à couper, mais je vais regarder.
Ok. Fait que c'est ça. Sinon, ben c'est pas mal ça pour mes deux semaines qui ont été remplies d'autres responsabilités là, qu'on a de temps en temps, ce qui m'a laissé un peu moins de temps de gaming.
Mm-hmm.
Toi, Matt?
Ben, de mon côté, comme j'avais mentionné la dernière fois, bon ben en changeant de carrière récemment, j'ai droppé beaucoup de mes contrats personnels que je faisais à la maison, parce que je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre, et vu que mes journées sont occupées à apprendre comme plein de nouvelles choses, j'ai comme plus le goût de travailler sur des projets présentement, ce qui fait que le podcast de cette semaine, ben, j'ai rien préparé. Non, c'est pas ça. Okay. C'est que j'ai beaucoup joué parce que justement, j'arrive le soir, je suis un peu tanné, puis je game comme j'ai rarement fait depuis longtemps. Mon dernier mois a été occupé de beaucoup de temps de gaming, évidemment avec l'arrivée de la Switch, mais la semaine dernière, là, tabarnak, OK? Ça n'a pas de sens. Mardi passé, là, le 18 là, avril, il y a beaucoup trop de choses qui sortaient. Genre, j'ai pas tout acheté parce qu'à un moment donné, ben, j'ai un budget, là, hein? Puis ce serait le fun que mon hypothèque se paye, là. Mais j'ai acheté...
Tu peux pas payer ton hypothèque avec des jeux de NES, mettons?
Avec des clés Steam.
C'est ça.
Mais non, j'ai acheté Wonder Boy de Dragonstrap, ouais. Le remaster. Je l'ai acheté version Switch, numérique, malheureusement. Pas de copie physique disponible présentement. J'ai acheté Flint Hook sur PC. Fait que j'ai acheté Full Throttle Remastered. Et ça, je vais prendre le temps d'en parler. Comme j'avais dit au dernier épisode que je prendrais le temps de les traduire parce que je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être discuté. Puis je suis déçu parce que j'ai pas acheté... ça devient cher un peu pour le temps que ça dure, mais il y avait le jeu VR de Rick and Morty,
ouais,
qui sortait aussi la semaine dernière. Il semblerait que c'est quelque chose comme autour d'une demi-heure, mais c'est comme 30$.
Ça coûte, puis, ouais, ça fait cher.
Il paraît que c'est top-notch. Il paraît que c'est une des meilleures expériences VR disponibles. Je suis pas surpris, considérant que Joystin Roiland et Alchemy Lab, le studio qui ont fait le jeu, ont travaillé ensemble avant sur un petit jeu gratuit qui s'appelle Accounting, qui est très, très drôle. Puis là, d'avoir un focus puis un budget en sachant que ça allait être vendu, j'ai aucun doute sur la qualité du jeu. Mais Calic, j'ai acheté, je pense, cette semaine en termes de jeu.
Tombe sur un deal à un moment donné, puis tu l'achètes, fais-moi signe.
C'est sûr que ça va venir, puis on s'entend que les semaines ne seront pas toutes comme celle-là. Mais ça fait que j'ai joué à ces trois jeux-là, que j'ai mis du temps, puis j'ai revisité un peu Ori and the Blind Forest, qui va se mériter un segment complet dans un autre épisode, parce que je sais qu'on a saupoudré le podcast de mes impressions sur ce jeu-là un petit peu depuis le tout début. Puis ça avait été officiellement discuté dans l'épisode pilote. Tu sais, imaginez, l'épisode 1 n'est jamais sorti, fait que vous savez que le pilote, il existe juste.
Celui-là qu'on a fait sur des micros de Rock Band?
Oui.
Celui-là que j'ai droppé une bière aussi en a.
Oui. Okay. Dans ton laptop, là. Oui.
Près de. Le laptop s'en est tiré sain et sauf.
Mais bon, c'est ça. Fait que j'avais un discours très décousu, finalement, pareil comme aujourd'hui. Là. Mais à propos d'Ori and the Blind Forest. Puis je pense que je vais devoir revisiter ça bientôt parce que moi-même, je redécouvre à quel point j'adore ce jeu-là. Donc, ça va se mériter un segment complet bientôt. Mais c'est pas mal ça pour moi dans le gaming des deux dernières semaines.
Avec beaucoup joué quand même à plein de choses.
En fait, je vais prendre une petite deux secondes pour parler plus de Wonder Boy parce que je pense pas en faire une critique, mais j'ai vraiment été surpris comme de mon évolution à jouer à ce jeu-là. De un, pour ceux qui connaissent pas la version qui vient de sortir de Wonder Boy de Dragonstrap, c'est pas un remaster ou un remake, c'est vraiment une approche que j'ai pas, je me rappelle pas de temps avoir vu. J'ai déjà vu, je pense, un Gradius qui le faisait, des trucs comme ça, mais on reprend le jeu un pour un, puis on applique une couche de peinture par-dessus. Fait qu'il faut vraiment comprendre qu'à tout moment, on peut basculer entre le jeu classique, 100% classique, qui se joue pareil comme il se jouait à l'époque, à tout moment, mais la version moderne est sublime visuellement. Okay, c'est des animateurs, c'est monté comme de la BD française.
Non, c'est vraiment beau. Là.
C'est, les décors du jeu original étaient vraiment, vraiment ça. Même pour un jeu de l'époque, là, c'était dry. T'sais, ça a son charme. Ça me passait des jeux sur PC. Là. Je nomme des affaires plus obscures que le jeu, mais moi, c'est mes références là-dedans.
Imagine. Hein?
Zelayard, Sorcerian, qui sont des premiers RPG que la compagnie Falcom avait fait au Japon. Qui avait été importé ici par Sierra. C'est super obscur, mais bon. Puis qui avait comme des palettes de couleurs très, très limitées ou des nombres de tuiles très, très limités. Fait que les décors se répétaient souvent puis le terrain était souvent fait avec un seul type de tuiles. Bref, l'original Wonder Boy de Dragonstrap, visuellement, c'est très simple, pour être gentil. Tandis que là, il y a vraiment eu une job de création hallucinante. Ils ont créé un univers visuel, ils ont créé une personnalité neuve à ce jeu-là, complètement le faisant. Mais... quand on bascule, on se rend compte que le jeu est le même. Fait que quand j'ai commencé à jouer, il y a eu comme un... j'ai comme eu un constat de faire comme... ouais, ben, tu sais, à un moment donné, on voit les limitations du jeu derrière, tu sais. Ça va être un fresh coat of paint. C'est comme Master System.
C'est
là.
Pas récent, là.
Non, c'est ça. Puis, c'est très, très simple comme gameplay. T'sais, oui, c'est un peu un Metroidvania plus straight, puis c'est pas une critique. C'est une de ses qualités, en fait, d'être quand même plus guidé, plus alentour d'un hub central. Puis c'est ça, mais les mécaniques sont simples. Les ennemis, des fois, sont plus souvent gossants que vraiment comme intéressants. Les boss, des fois, sont un petit peu. Encore une fois, c'est simple aussi. Mais j'étais comme bon, ok. Tu sais, les faiblesses du jeu original paraissent. Puis finalement, plus que j'avançais, je me suis rendu compte que c'est tellement une belle preuve de confiance envers le jeu original.
Parce que,
c'est ça. Un de mes remakes préférés, c'est Bionic Commando Rearmed. Ils ont corrigé beaucoup de choses parce qu'il n'aurait pas bien vendu aujourd'hui Bionic Commando comme il était. Tandis que ce jeu-là, il prouve le contraire. Il prouve que tu peux l'acheter aujourd'hui sans aucune nostalgie pour le jeu original, puis j'ai du plaisir. Puis plus ça avance, plus qu'il y a comme plein de petites nuances que je trouve vraiment cool à travers les différentes formes que ton personnage prend qui te permettent de naviguer l'environnement de façon différente. Fait que le jeu tient.
Mais c'est ça. T'sais, moi, j'ai pas joué à ce jeu-là. J'ai pas connu ce jeu-là
moi
avant.
Moi non plus.
D'aucune façon. Puis je suis moins... T'sais, j'aime les jeux rétro, mais pas au même point que toi. Puis je l'ai considéré l'acheter, puis je vais probablement l'acheter à un moment donné. Là. C'est juste que moi aussi, là, à un moment donné, la vie a un budget, puis un budget en temps aussi, cette semaine. Mais je suis intéressé par un jeu que j'ai... Fait comme tu dis, même quand j'ai su que c'était vraiment un...
Oui, c'est ça.
La couche de peinture, j'aime ça. Ouais. Du jeu original, je suis comme, ben sais-tu, j'aime ça les jeux rétro, fait que je serais partant pour l'essayer. Mais en même temps, il faut que tu le dises, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire le saut sinon, mais ouais.
Mais c'est fou, puis je suis juste un peu déçu que, écoute, je sais pas si c'est juste un réglage que moi j'ai manqué, mais sur la version Switch, bon, et probablement les autres versions, là, on pèse sur ZR, bon, R2, là, pour le monde civilisé, là.
oh, ouais, non.
Bon, puis ça bascule entre les graphiques rétro et modernes, sauf que ça bascule pas le son aussi. Je trouve ça un peu plate, puis on peut pas mettre une option pour que tout suive d'une shot.
Y compris le son, là.
Ouais, exact. Parce que, encore une fois, toute la présentation moderne est juste vraiment une lettre d'amour incroyable à ce bagage-là. Puis ils ont beaucoup d'humour par rapport à ce qui était là avant, des fois. Parce que quand tu quittes un environnement, il y a souvent des warps qui te ramènent au hub. Puis c'est vraiment juste comme une pièce. Puis tu sais, dans l'environnement des backgrounds du jeu original, il y a comme des... Il y a quand même des flèches, des flashs, genre. Je veux dire, on va par là, c'est quelque part, puis peut-être que notre design n'est pas clair, fait que voilà. Puis là, c'est vrai comme, c'est devenu comme une espèce de salle, comme dans l'espace, puis c'est écrit genre « Return » en néon avec une flèche en haut d'une porte. C'est écœurant, tout. Il y a vraiment comme une self-awareness à certaines des idiosyncrasies, tiens, du design de l'époque. Fait que c'est vraiment une belle lettre d'amour en tout aspect. Puis mon opinion a changé en avançant, puis je pense que c'est un beau compliment à y faire parce que je pense qu'il prouve son point de ne pas avoir été retapé d'aucune façon. Il fonctionne. Et le fait, en plus, que tu puisses charger tes vieux mots de passe dans le temps,
ouais,
et il te génère encore les mots de passe. Donc, tu as toujours l'option de continuer de façon classique.
Tu peux prendre ta game nouvelle puis rejouer sur... Ah, c'est quand
même cool. Les mots de passe continuent à être générés de façon valide. Magnifique. On va commencer l'actualité avec des félicitations envers un organisme fédéral, ce qui n'est pas dans mes habitudes, là, mais hein, une fois n'est pas coutume. Alors, félicitations au CRTC d'avoir mis de l'avant la neutralité du net avec leur plus récente décision. Ouais, j'ai beau être fier de ce qu'ils ont fait, je suis pas devenu fédéraliste.
Ah, okay.
Okay. Fait que, bon.
Mais mettons, un fédéraliste 8-bit, mettons.
On continue. Fait que, bon, oui, là, ok, je sais que des clients de Vidéotron, là, moi y compris, là, seront bien déçus que leur musique ne soit plus exclue du compte de leurs données mobiles. Là. Mais, big picture stuff, là, c'est la bonne décision.
Je suis assez d'accord.
Si vous n'êtes pas au courant du dossier, là, vous devez trouver ça un peu weird, là, comme, t'es content que le monde n'ait plus du stock gratuit. Mais, dans le fond, l'idée, c'est que d'exclure Google Play, Spotify, puis d'autres services musicaux de vos données mobiles, mais ça fait qu'il y a plein d'autres services de musique qui sont exclus, puis évidemment que vous allez favoriser les services qui vous avantagent le plus quand vous allez faire une décision d'achat. Ça fait que ça crée un avantage anticompétitif qui peut créer un précédent très dangereux, maintenant rapidement vers un net à deux vitesses, où on paye pour avoir accès à certains contenus, un peu comme des chaînes de télé finalement, ou pire que des compagnies censurent l'accès à certains contenus sur Internet, comme on le voit dans d'autres pays.
Mais voilà, tu sais, moi c'est ce bout que je savais pas, là. Tu sais, j'ai vu les pubs de Vidéotron, là. Ne payez pas votre musique, là. Puis c'est en lisant cette semaine sur le CRTC que je fais « Ok, c'est pas genre n'importe quel contenu de streaming de musique est exclu, c'est certains en particulier, puis dans ce sens-là, je suis mauditement d'accord, parce que comme tu dis, là, c'est le côté de neutralité de « moi, je te fournis un accès Internet, je te dis pas ce que tu fais dessus. »
C'est
au pire, je t'envoie un courriel dans d'autres torrents.
Mais le pire, c'est qu'aux États-Unis, justement, ils appellent ça les... j'ai un blanc, c'est les zéros quelque chose. Là. Mais bref, c'est l'idée qu'on ne te fait pas payer pour quelque chose, mais il y a des choses qu'on te donne gratuitement, qui est la même chose, sauf que ça a un œil avantageux pour le client. Ça ressemble pas justement aussi contrôlant. Mais j'ai vu de quoi de vraiment intéressant sur Ars Technica, en fait, qui genre,
Tu sais, j'ai toujours dit, OK, je sais que les États-Unis se battent avec la neutralité du net, même chose pour le Canada. Sauf que, genre, la position du CRTC est quand même beaucoup plus claire depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Mais je savais pas d'où ce que ça venait. Saviez-vous que c'est... on pourrait retracer, là, possiblement, beaucoup des décisions pro-neutralité du net à un conflit syndical de TELUS en 2005.
Ah, oh, ouais?
Ouais.
Ça m'intéresse.
Ben oui, hein? En plus, c'est Vidéotron d'un bord, puis on est TELUS de l'autre bord. Mais c'est correct, tout le monde a fait des mauvaises choses là-dedans.
Roger est encore en attente sur le support technique pour suivre la conversation.
Votre appel est important pour nous. Bref, pendant le conflit syndical de TELUS en 2005, des syndiqués en grève avaient mis en place un site web qui discutait des stratégies de grève, honnêtement un peu douteuses, là, genre jammer les lignes de TELUS, des trucs comme ça. Puis ils montraient des photos de monde qui traversait les lignes de piquetage. Fait que là, indépendamment de la moralité du site, il n'y avait rien d'illégal au site. Si vous n'êtes pas d'accord avec le site, je suis bien d'accord avec vous. Mais il n'y avait rien d'illégal à leur pratique. Mais TELUS a bloqué l'accès à ce site-là pour tous ses abonnés. Mais fait oui, que, hein, grosse censure de la part d'un distributeur. Fait que soudainement, là, la neutralité du net, c'était plus une affaire de compétition et de forfait. Là,
non, c'était vraiment mais une la censure.
Fait que ça a probablement, possiblement, en tout cas, amené bien des gens au CRTC à regarder la neutralité du net autrement. D'un point de vue, justement, service essentiel puis liberté d'expression. Now we know. And knowing is half the battle. Quand Jeff est pas là, là, ben on s'éduque au lieu de partir des conspirations, on se déchaffe de la peine.
Ouais, mais tu sais, c'est correct, c'est drôle.
Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça avec gag de shaft.
Ouais, pour ça, je fais le podcast.
On passe à autre chose.
Oh, mais du coup, je fais ça tous les jours.
Oui, c'est ça. Ben, ainsi que nos auditeurs. Bon, OK, une fois ou deux semaines. Attends. On passe à autre chose. Alors, l'architecte Changiz Terran a décidé de moderniser l'usage des gargouilles sur un bâtiment de la ville néerlandaise de Amersfoort. À ne pas confondre avec la très célèbre ville de Watfervoort, située juste un petit peu plus au sud. Puis si vous ne me croyez pas, ben vous allez juste à y aller.
Mon Dieu que t'es violent.
Ah, ça n'a pas d'allure. Eh bien, ce sympathique monsieur Terrani a dit lors d'une entrevue avec le site technologique dont le nom correspondrait en longueur, selon Google, à la moitié d'une toise. C'est la verge.
C'est tout drôle, ça? Parce que...
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est niaisant!
Oh. On aurait trop souvent la chance de placer. Fait que M. Terrani a dit en entrevue avec La Verge, en architecture classique, ils utilisaient les têtes des rois, ou peu importe, là, et ils mettaient ça sur la façade. Alors on se demandait, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ornement qui permettrait dans 10 ou 20 ans de regarder le bâtiment et de dire « Hey, ça a été fait cette année-là! » Et là, malheureusement, la réponse à la question fut « Des calices d'emojis! »
Ouais.
Alors, sur une des faces du bâtiment designé par M. Terrani, on peut retrouver 22 emojis basés sur ceux de WhatsApp, parce que tu sais, hein, pourquoi pas. Honnêtement, le tout est assez subtil. Là. Faut être assez prêt pour remarquer que c'est pas juste des ronds. Puis tout le monde semble assez heureux du résultat. Là. L'architecte mentionnait même que les étudiants des écoles voisines viennent évidemment prendre des selfies avec le bâtiment, tu sais, parce que c'est vraiment cool. Malheureusement, aucune des facettes du building ne porte un petit tas de marde avec une face joyeuse. Mais je dirais qu'en son absence, l'essence même de notre époque est absente. Ça aurait sauvé beaucoup de temps aux archéologues de demain là, qui fouilleront les ruines de Amersfoort en se demandant ce qu'était ce bâtiment. Ça aurait été assez immédiatement clair s'il était tombé sur un tas de marde en granit avec un gros crisse de sourire que c'était l'air de la présidence Trump.
C'est...
Et finalement, notre dernière nouvelle nous plonge au plus profond de la pertinence de l'internoroute de l'inwebnation. Ou plus probablement de la webtoroute de l'internation. La semaine dernière, le site de rigurgie technologique Gizmodo nous rapportait un morceau de choix issu du subreddit Fan Theories qui va sommairement comme ça.
Il y a rigurgie un morceau de choix.
Oui, forcément. Alors, la théorie va comme suit. Le personnage Wally n'est pas le sauveur, comme beaucoup de gens le suggèrent en disant que dans l'histoire, il se sacrifie pour sauver l'humanité avant de ressusciter. Wally est en fait Satan, tel que dépeint dans la Genèse. L'humanité dans Wally vit sans guerre, sans maladie, tout le monde mange à sa faim. La religion et la politique ne semblent plus exister. Tous les humains ont quitté la Terre depuis longtemps et la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'elle a déjà existé, sauf le pilote. Malgré leur vie plate, ils vivent dans un genre de paradis. Et soudainement arrive Wally, qui donne à un robot nommé rien de moins que Eve, une plante, analogue à la pomme, là, qui déclenche la chaîne d'événements qui, ben spoilers, hein, amène l'humanité à perdre le paradis et à vivre sur Terre. Il continue son analogie en comparant même les scènes d'agriculture et de pêche du générique à des extraits de la Genèse, et probablement en sacrifiant une chèvre, là, parce que, paf, par principe. Là.
Quand même.
Personnellement, j'accepte la théorie et soumet cette preuve additionnelle. On se rappellera le son que fait Wally lorsqu'il s'allume. Le son d'un appareil Apple qui boot, hein? Ouais, oui, Apple, c'est la pomme, là. Mais, ouais. Mais surtout Apple, le yable.
Le yable.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans notre univers du 1er au 14 mai? Je commence avec le 2 mai sur PS4 et Xbox One. Connu dans le monde pour créer l'arrière et
assez... Ta mère!
Oui!
Hey! On a un extrait audio. Oh, c'est beau, il joue demain.
Je recommence.
On est en 2002. Là. On va aller voir la Matrice 3.
Cool.
On va avoir du fun.
Je recommence. Connu dans le monde pour créer l'arrière et asseyez-vous dans le bac à sable avec un portail fantastique pour une action concertée sans 3D. Pour mettre à niveau votre personnage, virgule, et le dispositif est des armes puissantes dans la lutte pour vaincre vos ennemis en temps réel. Trouver des dizaines d'îles générées aléatoirement et rétablir la paix dans un monde déchiré par la division.
Je le sais pas.
J'ai un extrait audio, un audio qui aide pas.
Je sais pas.
C'est...
Ouais, allons-y. Ouais.
C'est Portal Knights qui est déjà en Early Access sur Steam, ouais, qui sort sur PS4, Xbox One le 2 mai. Devrait aussi sortir sur Switch éventuellement.
Je vais vous faire ma critique immédiatement. Pas bon.
C'est tout. Mais point positif à asseyez-vous dans le bac à sable
pour un Sandbox.
Un Sandbox Universe. Là, ouais.
Ben oui, bien sûr.
Voilà. Toujours le 2 mai sur PS4 et plus tard sur Steam. Cette exploration du monde est le jeu de puzzle en 3D. Point, cliquez, entrez, poké, jouez pour trouver le charme dans une tête d'affichage spéciale, enterrer, évaluer le canapé ou face à face. Un beau VR PC. Nous faisons Pierre Interationnes.
C'est pas fini.
Conseil, et les yeux sont pleins de riches papes, le chef de la maison à la vie. Toy, inspire des choses réelles dans le monde, un petit pays pour évaluer la capitale.
Qui est-ce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée?
J'ai encore un extrait audio pour ne pas aider.
Oh, au moins c'est cool.
C'est le jeu Gnog, que je ne sais jamais comment prononcer.
On va dire Gnog.
Gnog, développé par Co-op Games, justement, un petit studio de développement qui est basé à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est des puzzles, justement, où est-ce que tu es dans un espèce de jouet. Là, c'est assez visuellement pété. J'ai quand même hâte qu'il sorte sur Steam pour pouvoir l'essayer. Pour vous autres, là, je dis vous autres, même si Jeff n'est pas là, parce que ça l'inspire aussi, il y a même un level dans le jeu où on peut remixer des tracks un peu comme sur un synthétiseur. Je dis ça de même.
Oh ouais, en passant. Là.
En passant. Bref, un jeu que j'avais vu il y a un an et demi à peu près, à la nuit blanche, il y a pas la dernière, l'autre avant, qui m'inspirait déjà à l'époque. J'ai quand même hâte qu'il sorte sur Steam, parce que j'ai pas de PS4. Mm. Je termine ça avec le 5 mai au cinéma. Faire un fond satisfaisant mixtape, garde du volume, continue les aventures d'un groupe de quoi toutes les frontières. Je sais, mais laisse-moi finir. Les Rangers doivent se battre pour garder sa famille ensemble à percer le mystère de la pierre secrète et créer un véritable original. Il travaille avec de nombreux fans de ces personnages. Nouvelle classe de héros de bande dessinée aidera l'univers cinématographique à notre expansion continue de leurs anciens ennemis.
Le bout des... Comment t'es arrivé aux Rangers? Là?
Aucune idée.
C'est parce qu'ils ont clairé le Canadien en 6, c'est quoi?
Probablement. ça doit comme percoler jusqu'à Google Translate.
Mais serait-ce Guardians of the Galaxy Volume 2?
Avec un extrait audio qui aide un peu. Là. Hope you're ready. It'll be here any minute. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense.
C'est de la bass scotchante.
Ouais, c'est ça.
C'est la nouvelle porno bass.
C'est la nouvelle porno bass.
On va faire un hommage à l'ancienne parce que ça fait fucking longtemps qu'on l'a pas droppé. Oh yeah.
Ce qui nous amène.
Ben oui, c'est le moment qu'on prend dans l'épisode pour remercier à grands coups de Porno Base. Les donateurs sur Patreon qui acceptent bien de nous donner quelques dollars pour nous aider à couvrir nos dépenses. Ben merci à vous autres.
Ben merci beaucoup. Ah, et un autre.
Ah oui donc.
Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest. On est le 1er mai. Je commence en 1707. La Grande-Bretagne est alors constituée par l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. C'est ce que j'appelle le Brexit.
Ah, c'est lourd.
T'as pas un...
J'ai pas un fouin. Non, je l'ai pas.
Ah.
Attends une minute, j'ai ça. T'arrêtes?
J'accepte, même s'il n'y a pas eu de guerre.
Non, c'était le party. Il y avait des glow sticks pis tout.
En 1700.
Oui, c'était le premier rave.
OK.
Chris, check tes dates comme du monde, c'est-tu?
Ça doit être le 2 mai, c'est pour ça que j'ai pas vu ce bout-là. 1756, signature du premier traité de la place Versailles, là, qui en fait le centre d'achat le plus prestigieux de la Nouvelle-France.
J'ai le goût!
J'aurais tellement voulu l'avoir, mais je le trouvais pas. C'est juste odieux. Bref.
T'en faire une version à capella.
C'est bon.
Ben, c'est fait.
Voilà. 1757.
Ah, la place Versailles. Oui.
Signature du second traité de la place Versailles qui en fait le centre d'achat le moins prestigieux à Nouvelle-France.
Oui.
Attends, on me glisse ici à l'oreille que c'était les traités de Versailles, là, qui sont des traités formant des alliances entre divers pays d'Europe. Là.
Ah, OK. Ça n'a pas rapport avec la construction de la cage au sport. Genre.
Non, c'est ça. Oh. 1862. Puis cela, Matt, je sais que tu le sais déjà. Là. Mais c'est la prise de la Nouvelle-Orléans par les troupes nordistes pendant la guerre de la Sécession.
Mm-hmm.
La guerre de la Sécession, oui.
Mm-hmm.
Ben, tu sais, Matt, tu le sais. Mm-hmm. T'es un fan de North and South, pis tout.
Mm-hmm. Et voilà.
Que j'ai eu dans la tête pendant toute l'hostie journée.
En plus, je peux pas entendre le thème sans voir le petit personnage animé qu'il y a dans l'intro qui va avec. C'est juste trop solide.
Ça reste dans la tête, là. 1886, 350 000 travailleurs débraient aux États-Unis pour demander quelque chose que Lucien Bouchard le trouve complètement ridicule.
D'abord, il faut travailler plus. On travaille pas assez. On travaille moins que les Ontariens, infiniment moins que les Américains. Il faut qu'on travaille plus.
Oui. Lulu n'est pas content parce qu'il y a 350 000 travailleurs américains qui demandaient la journée de travail de 8 heures. Mm-hmm. Avant, on parlait de journée de 10 heures à 16 heures de travail par jour pour 6 jours semaine. Là. Des vrais travailleurs.
Puis je sais qu'il y avait eu justement le 4 mai, je pense, il y a un événement qui suit ça qui est un peu moins sympathique.
Oui, ben c'est ça. T'sais, dans le fond, ça a été. Dans cette période-là, c'est un des événements qui a amené le 1er mai à devenir la journée des travailleurs, justement.
Mm-hmm.
Puis oui, quelques jours plus tard, là, il y a eu des trucs avec des bombes d'horreur, qui ont été pas le moins prestigieux, ouais, qui a suivi. Pour finir la petite histoire, dans le fond, là, la journée de 8 heures arrivera à peu près partout dans le monde là, pendant la période de l'entre-guerre. Entre la guerre de 14-18 puis la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Bref, ça fait quand même du temps avant de se produire. J'avance en 1889, première journée internationale de revendication des travailleurs, là, ensuite aux événements de 86, justement. Je continue. 1899, dans le fond, la première voiture électrique, point.
Vous devriez voir la face d'un gars qui check ses notes puis qui comprend fuck all.
En fait, non, c'est parce que Wikipédia donnait ça le 1er mai, puis en cherchant, je me suis rendu compte que c'était le 28 avril, fait que fuck Wikipédia. Là.
Citations needed.
Voilà.
Wikipédia a une section faits alternatifs.
Oui, c'est ça, c'est géré par Fox News. 1916, le terme jazz est officiellement reconnu aux États-Unis pour décrire un style musical. Par contre, personne n'est encore vraiment capable réellement de décrire ce qu'est le jazz.
D'accord. Est-ce que le monde font des jazz ends quand
c'est clair. Yes. Il n'y a rien d'autre à faire.
Yes.
1930, Pluton reçoit officiellement son nom. La planète naine.
Oui.
C'est chaud.
La planète.
La planète. 1931, inauguration de l'Empire State Building à New York. J'ai juste une série de faits aujourd'hui.
C'est ça, c'est comme... Je l'ai dit,
c'est fait. 1964, le premier programme informatique écrit en BASIC est exécuté au Dartmouth College. Dans le fond, le but de ce langage-là, qui a été inventé dans cette époque-là, en fait, là, était de permettre à plus de gens d'utiliser les ordinateurs en étant plus simple, parce qu'à l'époque, est encore utilisé beaucoup les cartes perforées puis le Fortran. Puis c'est des langages qui permettaient pas beaucoup d'utiliser les ordinateurs pour ceux qui faisaient plus des matrices puis des sciences humaines. Mm-hmm. Fait que d'où l'invention du BASIC.
Oui, parce que si tu veux que les gens en sciences humaines utilisent quelque chose, ça se doit d'être simple.
Mon Dieu, c'est gratuit.
C'est un gag de science molle. Non, mais je suis sûr que le premier programme en BASIC, anyway, c'était genre Gorilla, là. Le jeu où les gorilles, c'était des bananes, là.
J'ai essayé de trouver c'était quoi, puis je pense que c'est un programme de partage de calendrier. Pas de calendrier, mais de... genre de gestion de temps, enfin, même, là, en tout cas. J'aime mieux ton idée. On se tait des bananes. 1972, la Cour suprême du Canada déclare que l'alcotest est valide au Canada, ce qui inspira plusieurs chansons populaires par la suite.
L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude, puis la poche de gel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5000 pour pisser.
Viens-tu te faire jouer du caillouche sur le pod, toi?
Pour une deuxième fois.
C'est tabarnak, c'est vrai. on se rappellera pas vraiment, non?
Non, non. C'était pour la fête des Acadiens.
Ah ouais, ok. Oh, ça passe mieux.
Pour souligner l'alcotest,
ça. Oui, ben oui.
Caillouche est toujours un grand philosophe.
C'est le mot que je cherchais.
Ou pas.
Ou pas.
1975, suppression des commissions fixes sur les transactions sur titre aux États-Unis, qui déclenchera par la suite une spectaculaire croissance des marchés financiers.
Hmm.
Puis le crash, puis Shadowrun, puis tout. 1984, meilleure nouvelle, sortie au Japon sur NES, ben sur Famicom en fait, du dernier jeu que je me suis acheté sur NES, justement, le jeu Golf.
Sacrifice! Ce véritable pilier hein, du catalogue du NES.
Ben moi, il me sert de pilier au reste de ma collection. Le
plancher n'était pas full légal. Ah,
c'est ça, okay. J'ai chimé avec un NES, un golf, jeu de golf. 1998, sortie sur PS1 d'un jeu stratégique qui est quand même assez reconnu pour sa qualité, Tactic Ogres.
Tactic Ogre au singulier, s'il vous plaît.
Ouais, okay.
Oui, oui. Ben oui, mais c'est très bon. Très, très bon jeu.
J'imagine qu'il y a plus d'ogres.
Y a-tu des ogres dans Tactic Ogre? Je pense pas.
Je pense pas. J'ai aucune idée d'où le nom vient.
Alors, si vous êtes un fan de Tactic Ogre et que vous savez s'il y a des ogres ou non dans Tactic Ogre, ben, c'est le fun pour vous autres.
C'est ça. Vous pouvez nous faire des punitions et tout, si ça vous tente.
Non.
Parlant d'ogres, 2001, l'administration Bush promet que les États-Unis auront un système de bouclier antimissile. On a un extrait ici, audio.
I'm afraid the deflector shield will be quite operational when your friends arrive.
Parfait. Si, Matt.
Ça fait plaisir.
J'ai des émotions.
Happy birthday to you.
Donc, naissance, 1er mai, 1852 ou 1850 ou 1856, dépendant des sources.
Riche, c'est ouais. Fiable.
Mais le 1er mai change pas. La légende de l'Ouest, Martha Jane Canary, ben, on la connaît pas mal plus sous son pseudonyme Calamity Jane.
Oh.
Un personnage où c'est difficile de faire la part des choses entre la réalité et le mythe dans son histoire, en fait. Elle aurait été éclaireur dans l'armée américaine pendant les guerres indiennes. Puis pendant la conquête de l'Ouest, en fait. Là.
Mm-hmm.
Puis ensuite, elle aurait été la personnage principale d'un spectacle qui raconte sa propre légende. Ce qui fait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, puis pas.
Puis après ça, elle était genre background singer, c'est un album de Cash Teen.
Je pense que oui. Finalement, elle va mourir en 1903, là, pauvre, aveugle, puis alcoolique, au Dakota du Sud.
Ah,
je pense qu'elle est aussi.
Comme Cash Teen.
Interviewée par Denis Lévesque à
l'époque. Mais Calice.
1954, naissance du chanteur, guitariste, auteur, producteur et acteur, mais connu pratiquement pour une seule chose dans sa vie.
Oh!
On commencé avant, j'aurais coupé, j'aurais dit Denis Lévesque.
C'est Rip Parker Jr.
Yes, qui aura aujourd'hui 63 ans, puis qui est crissement tanné de se faire demander qui c'est qu'il va appeler. Là. Mais il se calme quand il reçoit le chèque de redevance de cette chanson, qui aurait été vendue plus de 27 millions de fois, selon les chiffres de M. Jr. Je vais avec un dicton. Mais en fait, cette semaine, j'ai choisi 6 dictons qui viennent en 3 paires.
Car ils sont toujours des succès retentissants.
Je sais pas, ça dépend à qui tu demandes. En fait, c'est surtout pour démontrer le ridicule consommé de cette section-là de mon segment. Donc, je vais avec la première paire. Quand il pleut le 1er mai, les vaches, perdent la moitié de leur lait.
OK.
Deuxième partie. Quand il tonne le 1er mai, les vaches auront du bon lait. Fait que s'il y a un gros crisse d'orage, les vaches vont faire moins de lait, mais il va être sa coche. Deuxième paire. S'il pleut le 1er mai, le bœuf gagne et le cochon perd. Gagne quoi? On sait pas trop, là. On peut faire des suppositions si on prend le prochain dicton. Parce que le prochain dicton dit « S'il pleut le 1er mai, le cheval gagne son procès et la truie perd. »
C'est comme la plus grosse game de roche-papier-ciseaux ever.
Non, mais moi, c'est plutôt la nouvelle saison de Law and Order Farmville Edition. Puis je finis avec ma paire préférée. Pluie du 1er mai, présage année fertile. Ou pluie du 1er mai, sécheresse le reste de l'année.
Mais calice.
Pas mal ça, j'ai marqué le calvaire, décidez-vous. Blade of Steel.
Alors, on va quitter ce moment de pertinence pour aller parler d'un des nombreux jeux que j'ai mentionné avoir joué dans la dernière semaine, Full Throttle Remastered. Alors, Full Throttle Remastered, sorti le 18 avril dernier, ce qui est une version évidemment remasterisée du jeu sorti à l'origine le 30 avril 1995, donc pas exactement avant hier. À l'origine, conçu et publié par LucasArts, bien sûr, et maintenant publié directement par son designer, Tim Schafer, et sa compagnie Double Fine Productions. La remasterisation semble avoir été assurée par contre par Shiny Shoe. C'est un des jeux d'aventure culte que je trouve qui est peu connu, puis que je suis vraiment content justement que la version remasterisée soit maintenant disponible, parce que ça va permettre à beaucoup plus de gens d'y jouer. Tout simplement, là, on incarne Ben, le leader d'une gang de motards nommée les Polecats.
Ouais, mais pourquoi les gens ont cherché à écouter le dernier épisode, j'ai toute une belle description dans le Blender. Là. C'était ouais, clair au bout.
Tout y était. Hein? Avec les. C'était quoi déjà? C'était les
Moufettes.
Les Moufettes, oui. Les Polecats devenaient les Moufettes. Mais non, c'est le nom du gang de moto, les Polecats. Qui se font assez rapidement dans l'histoire, embarqués dans une histoire où on essaie de leur faire passer un crime sur le dos. Et évidemment, on doit sauver la situation. Bon, déjà la prémisse nous amène loin des jeux d'aventure plus traditionnels. Là. Évidemment, vu que c'est une histoire de moto et de motard, il y a pas mal plus d'action qu'on pourrait s'attendre dans un jeu où on incarne un pirate. Pourtant. Hein?
Ouais, pourtant. Do what you want, cause a pirate is
free. You are a pirate. Ça a été dit. En référence, bien sûr, à Monkey Island, qui était le jeu précédent sur lequel Tim Schafer avait travaillé. Full Throttle se trouve en fait être le premier jeu sur lequel il a assuré lui-même la création. Donc, justement, on s'attend à voir plus d'action que l'on retrouve dans les jeux précédents à cause du concept. Puis évidemment, l'histoire s'en retrouve aussi beaucoup plus compacte parce qu'elle est plus guidée. Donc, la sélection d'actions dans le jeu aussi, plutôt que la liste de verbes interminables qu'on trouvait dans les jeux de LucasArts à l'époque, là, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas les anciens jeux de LucasArts, le tiers du bas de l'écran, c'était une liste de verbes. Bon, je pense que c'est genre autour de 12 verbes différents. Genre take, pick up, open, close, turn on, turn off, qui étaient tout le temps séparés.
Turn on?
Ouais, mais turn off aussi. Oh. OK. Bref, c'est un petit peu lourd comme interface. Tandis que là, on drop tout ça en faveur en fait d'un tatou que Ben porte sur son bras. Donc, il est comme une tête de mort là, avec une botte, puis un poing, puis une espèce de ruban en dessous. Ce qui fait donc que les actions qu'on a, ben, c'est la main qui nous permet soit de prendre ou de frapper. Les yeux, donc pour regarder. Le pied, pour tout simplement kicker, c'est tout ce que ça sert. Et la langue, pour parler, licher ou siphonner. Parce que, tu sais, ça prend du gaz des fois de moto.
Ah, ben dans ce sens-là, oui.
Oui, merci. Puis en plus de tout ça, ben on retrouve deux mini-jeux au cours de l'histoire. Un, en fait, qui est du combat à moto. Donc, entre motards, comme ils font régulièrement, tu sais, côte à côte, à se crisser des shots. Mm-hmm. Puis, mais en fait, ça se trouve quand même être des puzzles, parce qu'il faut trouver quel objet on doit utiliser pour combattre quel motard. Donc, quand on le bat, on récupère l'arme qu'il y avait. Donc, il y a comme une espèce de game de tic-tac-toe. Puis une compréhension de ce qu'on essaie d'accomplir qui passe à travers ça. Donc, c'est pas juste un mini-jeu pour alléger.
plus t'en parles, plus je trouve ça très drôle, le genre de setup de gros moteurs, la moto, le rock, puis genre, c'est juste pas drôle.
C'est
belle juxtaposition, mettons.
Mais l'une des forces des jeux d'aventure, c'est de pouvoir compter une histoire à leur rythme, comme aucun jeu, en fait, à cette époque-là pouvait le faire. Fait que de prendre quelque chose qui est... Genre, on veut faire de l'action dans un genre qui nous permet de faire tout bien sauf de l'action. Mais bon, c'est quand même ça qu'ils accomplissent avec Full Throttle. Le deuxième mini-jeu, en fait, c'est un derby de démolition. Puis dans ce cas-là aussi, là, c'est vraiment juste un prétexte à des puzzles additionnels. Fait que c'est pas juste un mini-jeu comme le combat qu'on retrouvait dans les jeux d'Indiana Jones, qui sont vraiment du combat, qui va avoir une victoire ou un échec qui est résultant strictement des mécaniques en cours plutôt qu'une façon de faire d'autres puzzles. Donc, très intéressant comme exécution. Mais dans les deux cas, par contre, c'est pas la grosse coche. Là. C'est vraiment là pour donner de la variété, mais c'est... Genre, leur idée est dans les points forts du jeu, leur exécution, pas tant. Mais ça, tout ça est contenu, évidemment, dans un jeu qui a plein de dialogues vraiment, vraiment drôles, qui est la spécialité de Tim Schafer, puis qui est la principale raison de jouer anyway à ces jeux d'aventure-là.
C'est ce que j'aime de ces jeux-là, c'est ce que je découvre, justement, si on revient à la dernière causeuse, ou pas la dernière, mais en tout cas, où est-ce qu'on parle un peu des styles de jeux qu'on découvre, ben, c'est ce que je découvre là-dedans, là. C'est l'histoire qui me fait triper, qui est drôle, les dialogues qui sont hilarants, puis...
Tu vas être servi si jamais tu claques Full Throttle.
Des chances.
Fait que bref, les dialogues, c'est la principale raison de jouer. Puis la deuxième raison, ben, c'est la chanson thème. Là.
Je sais pas ce qui s'est passé, mes cheveux ont comme allongé, puis j'ai un paquet de clopes qui m'a poussé sur le dos.
Dans ton t-shirt blanc, ça mange. Mais oui, évidemment, je l'avais parlé la dernière fois, là, qu'il y a comme deux tunes dans le jeu. Mais c'est pas vrai, en fait, j'avais dit qu'il y avait deux chansons dans le jeu. Il y a beaucoup de tunes de l'album qui sont dans le jeu, toutes dans le générique à la fin. Il y a quasiment l'album au complet dans le générique. Puis il y a plein de petits licks de Git qui sont utilisés à différents buts au travers du jeu. Mais une chose qui est vraiment, vraiment impressionnante et encore plus aujourd'hui de ce jeu-là, c'est à quel point c'est un film d'animation interactif. Le jeu, vous avez vu des jeux d'aventure, vous en avez vu des modernes qui prennent des looks rétro, là, tous ceux que la compagnie Wat Jet High font, qui sont vraiment des hommages à ce que LucasArts faisait dans le temps. On parle pas de ça ici, là. C'est produit comme un film d'animation. Il y a plein de séquences. D'un, ça roule dans le moteur du jeu, là, fait que c'est pas des vidéos pré-rendues, à part quelques petits morceaux d'éléments 3D qui sont intégrés. C'est tout roulé en moteur, puis my god que c'est beau. Puis là, évidemment, si on parle de la version remasterisée, ben, ils ont tout liché ça, donc ça file juste comme un film d'animation, ces belles séquences-là. Ouais. Puis c'est très drôle parce qu'il y a, pour autant que j'ai joué à ce jeu-là des dizaines de fois, il y a plusieurs des séquences. Ben, d'un, le moteur que LucasArts utilisait dans ce temps-là pour les jeux d'aventure était essentiellement incapable de faire un scrolling smooth, soit de haut en bas ou de gauche à droite. Ce qui fait qu'il y a plein de séquences du jeu qui, dans mon souvenir à tout jamais, sont vraiment comme coche par coche.
Choppy au bout, là.
Ah, c'est terrible. Puis, il y a certaines animations qui sont tellement détaillées, en fait, qui prennent beaucoup de l'écran, fait qu'ils doivent être lourdes à redessiner dans le moteur original, que j'ai jamais vu de façon fluide. Parce que peu importe l'ordinateur dans lequel tu le roulais, ça performait juste pas au niveau logiciel. Fait qu'à un moment donné, bref, il y a quelqu'un qui est mourant puis qui tousse, mais il est vraiment comme plein cadre dans l'écran, puis ça laguait, là. T'avais le son qui roulait normalement, puis l'image, genre, arrivait tranquillement. Et maintenant que la version remasterisée, ben, je peux le voir en temps réel. C'est combien impressionnant. Mais bref, ça a vraiment, vraiment l'air d'un film d'animation. Puis le fait d'avoir à l'époque intégré du 3D pré-rendu à tout ça, ça leur permettait de faire des animations très complexes à peu de coups, bien sûr, malgré que la 3D de l'époque souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parlera de ce que le remasterisé fait un peu plus tard, mais en gros, la version originale, c'est vraiment son point faible, sa présentation. Puis bref, on rajoute à ce feeling de film animé-là du voice acting, rien de moins que parfait. Là. C'est top-notch. Incluant d'ailleurs Mark Hamill dans un petit rôle d'un des sbires là, du méchant.
Non, il devait commencer un peu à faire ça à l'époque avant d'avoir une carrière gigantesque.
Il avait quand même une bonne carrière de voice actor avec Batman, au minimum. Qu'il faisait Batman The Animated Series quelques années avant ça. Fait que non, il était déjà sur sa lancée, mais je pose son association avec Lucasfilm qui a dû lui donner ces opportunités-là. J'ai choisi deux petits extraits. à l'abri de tout spoiler, parce que si vous remarquez depuis tantôt, là, j'ai parlé de rien de l'histoire, parce que tu peux pas, dans un jeu d'aventure, te lancer là-dedans.
C'est ça, je vais me fermer mes oreilles, puis je vais mettre à faire la 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 la, ça sera pas agréable.
Pour c'est les très radiophonique. Ouais. Non, le premier extrait, c'est quand on ramène un set de fourches pour réparer notre moto à une mécanicienne.
Knives, forks. Where'd you find them?
Right next to the knives and spoons.
Cheesy. Et on voit ici la voix de baryton de notre personnage principal. Très apaisant. Écoute,
J'aurais préféré que tu droppes le ballon dans la fourche.
Et le deuxième extrait audio, c'est il y a une jeune photographe qui demande notre aide et profite probablement du fait qu'on est dans un jeu produit par LucasArts pour nous dropper ce petit bijou.
My career is riding on those pictures. Help me, Ben, you're my only hope.
Help me, Ben, oui, Ben.
Fait qu'on a un jeu qui a quand même une histoire à plus petit scope qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Là. On n'est pas en train de sauver l'humanité, là. On est juste en train de sauver notre gang de motards. Mais c'est quand même une histoire de conspiration. C'est quand même une histoire qui est très, très engageante avec beaucoup d'actions et beaucoup de puzzles d'action, ce qui est vraiment impressionnant, qui se fait assez rapidement, comme toujours d'aventure, là, quand on connaît les solutions, mais que si c'est votre première fois, ça risque de vous prendre toutes vos soirées pendant une semaine pour trouver les solutions, puis après ça, une seule soirée pour le refaire, comme j'ai fait en achetant la version remasterisée. Et parlant de la version remasterisée,
oui, vas-y donc, Mathieu.
Il faut traverser ce pont-là. Bon, comme j'ai dit, je suis content que ça existe. Ça va permettre à plein de gens d'y jouer. Évidemment, le jeu original là, doit rouler en quelque chose comme 320 par 240 de résolution.
Ça, c'est pas la résolution de ta Pebble, ça?
À peu près, OK. C'est pas très haute résolution. Et le jeu nous permet de basculer toujours entre le rendu original et le rendu moderne. Donc, okay. On peut facilement comparer ce qu'il y en est. Une des belles choses qui ont rentré, c'est que pendant le segment où on doit se battre à moto, en fait, on se promène sur une... C'est un background pré-rendu en 3D, là, où on se promène dans un canyon. Puis, dans le fond, on se promène tant comme d'un combat à l'autre. On fait un petit bout, il n'y a rien à faire à part retourner sa route principale pour faire des puzzles, puis le prochain combat. Mais il y a vraiment comme une game de rush-papier-ciseaux. Fait que souvent, il y a des combats qu'il faut qu'on skip parce qu'on peut rien faire. Puis même en sachant la solution, c'était chiant parce que tu étais obligé de t'engager dans le combat, de perdre, d'avoir le petit boost que tu te relèves, etc. T'as maintenant, tu peux tenir un bouton pour skipper, tout simplement. Ça fait vraiment juste skipper. Là. C'est terriblement cheap, mais ça enlève ce petit côté-là un peu niaiseux de devoir se claquer tout ce bout-là. Et évidemment, il intègre le contrôle avec la manette pour tout le jeu, vu que le jeu est disponible sur PlayStation 4. Et avec le mode pour la manette, on peut, avec le joystick droit, basculer directement d'un hotspot dans l'écran à l'autre. Donc, on n'a pas à faire de pixel chasing pour trouver des trucs dans l'écran. On peut juste donner des coups avec le joystick. Je pense pas que c'est si nécessaire, mais si on est pris, ça peut devenir un bon outil pour explorer les trucs qui manquent. Ça, c'est les améliorations. Au niveau visuel, ils ont upscalé toutes les ressources du jeu pour qu'il passe bien aujourd'hui, mais il y a beaucoup, beaucoup de filtres automatiques, à mon avis, où il y a beaucoup de... Tu sais, j'imagine là, qu'ils ont extrait toutes les ressources du jeu, ils ont mis ça dans les mains de plein d'artistes, puis ils ont dit « rends ça clean
».
Fait qu'il y a bien des choses qui font pas tant de sens que ça, comment elles sont interprétées. Des fois, il y a comme des exemples, des motifs dans l'asphalte ou dans de la saleté à terre, que c'était clairement comme des artefacts de basse résolution, puis ils ont juste comme smoothé, puis c'est pas forcément très beau.
Ça devrait pas être là, puis ils l'ont mis parce que ben, ça a l'air d'être là.
C'est ça. Ben, c'est qu'en basse résolution, tu te dis « OK, c'est de la texture que je comprends pas ». Puis là, tu arrives en définition, tu te dis « OK, c'est rien ». Fait qu'il y a comme un côté où que ça file un peu automatique, ça file pas comme... Tu sais, j'avais Wonder Boy tantôt, là. Là, on est un petit peu à l'opposé, où c'est automatisé, c'est un petit peu épais. Puis évidemment, comme tous ces jeux-là, qu'on va retaper des choses classiques, sans avoir une intention de design, ben des fois, il y a des trucs comme « Ah, OK, j'imaginais pas la face de ce bonhomme-là comme ça », parce qu'avant, il était genre 9 pixels de haut. Puis là, soudainement, ben, en se retrouvant full détaillé, ben, c'est pas ça qu'on voyait. Dans un cas plus flagrant, là, un personnage méchant, à un moment donné, qui fait un speech, qui est sur un stage, puis il était vraiment tout petit au loin, parce qu'on voyait un écran en haut de sa tête. Puis à cause de ça, le personnage était très, très simplifié, très, très cartoony. Puis là, avec la version remasterisée, il se trouve être très détaillé. Puis l'animation, quand il avance sa tête, était volontairement un petit peu ridicule. Elle était vraiment comme beaucoup, beaucoup plus grosse. Puis c'était très, très comme exagéré. C'était très, très comique. L'effet est complètement perdu. Y a des trucs comme ça où, bref, je trouve qu'ils ont perdu de leur cachet. Avec la basse résolution aussi, quand les personnages s'éloignaient, il y avait volontairement... En fait, ça créait un effet qui semblait très, très volontaire d'avoir des lignes très épaisses sur les contours des personnages qui donnaient un look très, très massif aux personnages. Ils ont tout fait des lignes minces dans les contours maintenant qui enlèvent ce côté-là du style visuel que je trouvais vraiment cool à l'époque. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que je trouve que ils rendent pas service aux cachets du jeu original.
Comprendre, c'est comme si les lignes à l'époque restaient aussi grosses qu'au départ, donc il y avait l'impression de devenir
plus épais.
En tout cas, ils ont comme vectorisé, fait qu'ils...
Ben, j'avais l'impression, en fait, je comparais certaines scènes qui m'avaient frappé, surtout là. Ouais. Puis, en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de détails, souvent les personnages avaient comme des ombres très, très, très importantes dans le visage, pas détaillées.
Ouais.
Puis, en le détaillant, ben, ils ont comme rajouté du détail, puis ils ont comme simplifié ça. Dans l'intro, en fait, c'est très, très évident, là. Il y a deux personnages accoudés au bar qui jasent, puis notre adjoint, là, il est là, puis je suis comme, OK, il est vraiment pas pareil. T'sais. Il y a des fois, il y a des moments où on voit qu'ils ont juste retracé, des fois qu'ils ont redessiné. Bref, je trouve que c'est peut-être parce que je suis un peu maniaque du jeu original, mais je trouve qu'ils ont perdu un petit peu du cachet de la présentation. Mais la plupart du temps, la résolution, par contre, évidemment, ouais,
c'est,
aide.
Mais tu sais, c'est legit là, comme parenthèse, parce que tu fais un jeu remasterisé, oui, pour que les personnes qui n'ont pas joué à l'époque rejouent. Mais tu veux que tes fans de l'époque aussi l'apprécient comme ils l'ont apprécié, tu sais.
C'est ça. Par contre, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout des bémols où est-ce que je suis en amour avec le jeu original, ouais. Tu sais. Fait que c'est sûr que je remarque ces choses-là, puis je suis comme, c'est ça, je suis pas aussi d'accord avec certains choix qu'ils ont fait. Par contre, tout ce qui est en 3D est vraiment massivement amélioré. Oui, c'est du pré-rendu, mais ils ont tout refait. Puis en basculant entre les deux, ça, c'est frappant à quel point je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'était vraiment si laid que ça. Entre autres, la section là, sur rail où on se promène en moto, là. Les montagnes, etc., c'est dégueulasse. Fait que, bon, il n'y a pas que du mauvais alors à l'adaptation du graphique. Côté musique, évidemment, on améliore beaucoup la qualité de l'audio. On améliore le mixing, mais c'est encore pas parfait. Il y a des fois où, dans le jeu original, des fois la musique était trop forte, puis le son était un peu perdu. C'est amélioré, mais c'est encore un peu là. C'est un peu étrange. C'est comme, OK, ils ont amélioré le mix, mais calique, j'ai encore de la misère à entendre ce que le gars il dit sans moto.
C'est très drôle parce que tu parles de choses que j'ai vécues, moi, dans le jeu que je vais parler tantôt, dans Lego City.
c'est encore un danger.
J'en parle pas dans ma review, mais des problèmes de mixing comme ça, parce que t'entends pas le dialogue. C'est quand même comme une couple de fois. Là.
Mais c'est encore plus fâchant quand tu dis, OK, ils ont pris la peine de le remixer.
Ouais.
Puis, tu sais, ils ont quand même mis ça dans les mains de quelqu'un, là. OK, tu vas t'occuper de remixer l'audio, là. Puis c'est encore un peu problématique. T'sais. Puis c'est un jeu qui est juste stéréo, là. Fait que c'est pas une question de 5.1 puis de trucs comme ça, là. Ça. Puis, pire, la pire critique que j'ai par contre au jeu remastered, c'est que le timing marche pas toujours pour l'audio. Il y a un segment en moto justement qui devait être sur le frame rate de comment ça roule à l'époque. Puis la musique dure un certain temps. Presque, on fait un bout en moto, puis c'est sûr qu'après tant de temps, on va arriver sur un obstacle. La musique finit avant qu'on arrive, puis quand on arrive dans la scène suivante, la musique continue à cet endroit-là. Parce que c'était tout calibré. Mais là, on a un moment de vide. Ça arrive à deux, trois endroits comme ça. Et il y a un autre bout où... je suis pas sûr si c'est à cause de la version remasterisée ou si c'était là à l'origine. Mais il y a des moments, des changements de scène qui semblent particulièrement violents. Où tu as l'impression que l'animation est comme trop courte. Puis qu'on arrive tout de suite à la prochaine chose. Peut-être que c'était moins frappant à l'époque parce que tout était moins haute résolution. Tout était moins fancy. Puis là, on arrive là. Puis c'est vraiment comme... Il me semble que ça change vraiment vite. Bref, ça l'aide pas à la présentation. Fait que je trouve ça un petit peu jarring parce que je sais pas c'est qui va tant découvrir ce jeu-là. T'sais, j'espère qu'il y a des gens qui vont le découvrir, mais tous tes anciens fans vont voir les problèmes de ta présentation. Puis les nouveaux vont pas être charmés par ces aspects-là. Ça aurait mérité un petit peu plus de soins.
Ouais. Tu décris des problèmes qu'on devrait pas voir dans un jeu de ce style-là en 2017, dans le sens où c'est pas comme si ça demandait une puissance d'ordinateur pour rouler puis tout ça. Là,
ça aurait été un mod fait par des fans, j'aurais été comme, OK, c'est clean. Ouais. Là, c'est un produit commercial qui se vend 16$, ce qui est pas excessif, que le jeu vaut amplement, mais c'est un peu une adaptation cheap, mais d'un super bon produit. Fait que ça reste que ça vaut la peine. Mais cela dit, j'ai des bémols à la modernisation de ce jeu-là, comme on la voit présentement. J'ai pas joué à Day of the Tentacle, le remaster, là. Je présume qu'il y a un petit peu des mêmes problèmes, parce que c'est le même genre d'adaptation où c'est juste comme... c'est un émulateur, là. C'est un interpréteur, en fait, qui roule, puis ils ont modifié les ressources, là. Mais c'est pas un vrai travail de remaster, comme le soin incroyable que je viens de voir avec Wonder Boy, tu sais.
Ouais.
Fait que quand tu compares ces deux choses-là, pour un prix tout à fait comparable... C'est un peu triste. Mais, cela dit, si vous, à mon avis, là, si vous êtes intéressé par les jeux d'aventure puis que vous n'avez jamais joué à Full
Throttle... Ou le gros Roxal.
Ou le gros Roxal à l'occasion, c'est sûr que je vous suggère le jeu. Là, parce que je vous l'aurais suggéré dans sa forme originale, de toute façon. Donc, une recommandation facile, mais bon, sachez que ça va être un remaster. Je ne dirais pas que c'est une version définitive.
Hey, J'en ai parlé l'autre fois, hein, je suis finalement sorti d'Hyrule après de nombreuses heures. Un nombre impressionnant. Hein.
Monsieur, j'ai pas le temps de jouer à rien. Là.
Non. Cette semaine, j'ai pas le temps de jouer à rien.
Ah, ok.
J'ai pas parlé des autres semaines avant. J'ai passé un nombre d'heures quand même impressionnant à courir après des petites créatures là, qui me montraient leurs graines, qui me donnaient là, les quoi, entre puis après orchestrer un génocide là, de moblins et autres créatures. Mais je me suis retrouvé un peu en deuil finalement. Bon, c'est pas tant un deuil que comme une espèce d'impression, mais fait sacré là par Link, là, ce petit salaud. Puis on fait quoi quand on se fait sacrer là? Ben, on va sur Tinder, là, puis on se trouve un rebound.
On s'achète des Lego.
Aussi, ça arrive.
C'est mature comme réaction.
Non, des Lego.
Ou Batman.
Puis moi, dans mon cas, c'était pas sur Tinder, c'est plus sur le eShop que je suis allé pour me trouver un rebound. Un autre open world, là, pour me faire oublier mon ex qui était si beau, si grand, si vaste. Mon rebound avait un petit côté de nostalgie de mon enfance, puis tu sais, un rebound puis de nostalgie, c'est vraiment un mix dangereux. Hein.
Tavernique.
Ben heureusement pour moi, j'ai pas fini dans un bain de glace avec une cicatrice de 10 pouces sur le flanc, là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est quand même une plus belle histoire que j'ai vécue. Bon, j'arrête de niaiser. Là. Dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai passé quand même quelques heures dans les dernières semaines dans le monde de Lego City avec le jeu Lego City Undercover. Développé le jeu par TT Fusion, ou Traveler's Tale, là, ouais. Un subsidiaire, en tout cas, peu importe. Dans le fond, au départ, le jeu a été publié sur la Wii U en 2013, puis il a été remasterisé, puis il est sorti là, en avril dernier sur Windows, PS4, Xbox One, puis Switch, qui est sur la version sur laquelle j'ai joué. Dans le fond, on parle grosso modo d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne, open world, là, ou relativement
comme
open world.
Comme tous les mots du jeu de Lego, finalement.
Voilà. On va incarner, dans le fond, Chase McCain, un policier avec un nom tout droit sorti d'une cour d'école.
Tout droit sorti d'un sac de frites congelé à l'épicerie. Là.
Aussi. Oui. Mais si tu chasses tes sacs de frites congelés, tu me diras quelle épicerie tu vas. J'irai ailleurs. Donc, Chase revient à Lego City là, après avoir été parti pendant 2 ans sous la pression de la mairesse qui veut son aide pour appréhender le méchant Rex Fury, un dangereux criminel arrêté par Chase 2 ans plus tôt puis qui s'est récemment évadé de prison. Rex Fury aussi, c'est l'autre nom qui vient de la cour d'école. Chase va devoir, dans le fond, essayer de retrouver Rex puis éventuellement là, devra infiltrer les groupes criminels pour retrouver Rex et sauver la ville. Vous trouvez ça cheesy?
Vous avez rien vu.
Je vous ai pas encore parlé de tous les autres clichés qu'on va retrouver dans le jeu. Là. On a le chef de police qui est tout le temps fâché, qui mange des bangs puis qui haït Chase.
C'est-tu un black?
Malheureusement, non. Ça aurait été quand même bon.
Oui, c'est tombé étrange.
Oui, il y en a pas.
C'est tombé raciste.
Yellow washing. De...
du yellow washing. On part une campagne. Non au yellow washing de Lego.
T'as l'ex-blonde de Chase qui a dû aller sous la protection des témoins.
Elle est jaune aussi, je pense.
Ben oui.
Calice. Ils sont partout, les jaunes. Les Lego jaunes, je
parle. Les Lego jaunes. Non, pas... En tout cas. Hein?
Oui.
On va revenir aux Lego qui sont fabriqués en Chine. Donc, l'ex-blonde de Chase, oui, qui, dans le fond, a été se cacher là, dans la protection des témoins parce que Chase a échappé de l'information sur elle 2 ans auparavant quand il a capturé le méchant. Voilà. Donc, elle étant maudite au début du jeu, elle va finir par retomber en amour avec Chase au cours du jeu.
Même si elle a liké des photos d'elle tout nue sur Facebook.
Oui, tout nue, c'est ça. Bon, égo, là.
Tout jaune.
Tout jaune. T'as le partner, dans le fond, qui va t'aider en cours de route, mais qui est vraiment en cave. Il n'est même pas capable de s'asseoir du bon côté sur un cheval, un genre de gros... là.
Jar Jar Binks.
Non, mieux.
OK, good. Thank God.
Fait que tous les clichés sont là, vraiment, dans le jeu pour rendre ça... Pour rendre ça un gros cliché, mais c'est correct, je pense qu'on aime ça.
Cliché slash hommage.
Ouais, c'est ça. T'sais. L'histoire est pas très très profonde, on s'entend, mais elle est assez présente et intéressante pour qu'on embarque quand même. T'sais, on le sait qu'à la fin, tu vas sauver la ville puis tu vas finir avec la fille, mais tu te demandes qu'est-ce qui va se passer entre les deux. On gagnera pas d'Oscar avec une adaptation cinématographique de ça quand même. Donc, à date, on peut quand même se demander pourquoi on jouerait à Lego City, là, parce que c'est une histoire niaiseuse. Avec pas de diversité ethnique.
ben voyons.
C'est un jeu de Lego. Un jeu de Traveler's Tale, là, dans le fond, qui est la compagnie qui a fait à peu près tous les jeux d'aventure de Lego des 15 dernières années. Là. Ouais. Tu sais, là, les Star Wars, Batman, Harry Potter, name it. Fait qu'on retrouve. Quand...
Lego name it, c'est mon préféré.
Ouais, moi aussi, Lego name it est le fun. Fait que ceux qui ont joué à ces jeux-là comprennent l'attrait de jouer à un autre jeu de Lego. Tu sais, c'est des jeux qui sont le fun à jouer. Point. Dans le fond, c'est intéressant, c'est. Le premier jeu qui a été fait par eux autres, qui n'est pas une propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre, là, qui est une propriété intellectuelle de Lego, là, les Lego City, là, cette grosse maudite série-là de jeux qui est quand même...
Qui date de longtemps.
Ouais, puis qui sont vraiment nice, là. C'est peut-être ceux qui sont le plus Lego, finalement, de la gang. Mm-hmm. Fait que on retrouve tous les éléments classiques là, de ces jeux-là, de Traveller's Tale. On se retrouve dans un monde en 3D, d'une qualité quand même impressionnante, là. Puis dans un monde où est-ce que tout ce qui n'est pas de la géographie, finalement, ben, est fait de petits blocs.
Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des jeux de Lego, justement.
Non, il y a plus d'éléments qui sont bon pour ramener le feel des univers, là. Mm-hmm. Mais pratiquement tout est fait là, en Lego, là, des buildings aux décors, aux voitures, tout est des petits blocs. Là. Puis comme presque tout dans le jeu, dans le fond, puis ce qui est le fun avec les Lego, c'est qu'on peut défaire ça des constructions en Lego. À peu près tout dans le jeu qui est fait en Lego peut se briser. Puis ça se défait en petits morceaux de blocs Lego. Bon, il y a tout le temps des blocs que tu peux ramasser là, qui viennent dans ton inventaire parce que bon, c'est une des deux... currency, là, deux éléments qu'on peut accumuler dans le jeu pour faire des choses. Les blocs nous serviront à faire d'autres constructions plus tard, qui appellent les super builds, qui sont des fois des trucs pas trop utiles, qui sont là dans la ville, ou des choses qui sont nécessaires à l'histoire aussi, des fois. Là. Mm-hmm. Mais bref, c'est tout ce que tu construis, mais tu ramasses des petits blocs. Tu peux péter n'importe quelle niaiserie, ramasser des petits blocs. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut tout briser dans le jeu, puis des fois, ça fait rien d'autre qu'on le brise, puis c'est drôle. Puis des fois, ça fait des choses qu'on peut reconstruire pour faire d'autres objets qui nous permettent d'avancer. Sinon, on peut aussi ramasser là, ce que les gens qui ont joué à ces jeux-là connaissent, là, les studs, là, finalement, là, qui sont les petites pièces rondes là, de 1 d'épaisseur, pas d'un d'épaisseur, mais de 1.
Les scènes en Lego.
Les scènes, là. Ouais. Qui servent en fait d'argent pour acheter des costumes qu'on va trouver en cours de route. Là, on trouve un costume, on va pas l'utiliser tant qu'on l'a pas acheté avec des studs. C'est jamais vraiment un problème. Mm-hmm. J'aurais pu juste pas mettre ça, puis ça aurait pas été grave, mais c'est là dans tous les autres jeux. Là, fait que j'imagine que c'est un peu lié. Fait qu'en dehors de ça, si je compte un peu sur le gameplay, on se retrouve avec une ville quand même assez impressionnante dans laquelle on va accomplir des missions qui vont nous rapprocher de plus en plus de notre ennemi. En gros, pour faire une espèce de comparaison, on se retrouve dans un jeu qui joue un peu comme un Grand Theft Auto, mais dans lequel on va jouer plus un policier, soit là. Ben oui, parfois, on va faire des actions qui sortent des limites de la loi, tu sais. Mais c'est toujours pour des raisons policières, là. Genre, on va faire des vols. Parce qu'on va
réquisitionner.
Parce qu'on est undercover, ah, ben oui, ben on oui. va faire des vols. Mais on va toujours, comme, dans le fond, aviser nos collègues au poste de police qu'on va faire ce vol-là. Il y a des propriétaires là, qui seront remboursés en temps et lieu. Tu sais, un peu comme dans GTA, on peut, ben oui, voler des autos puis tout ça. Malheureusement, contrairement à dans Grand Theft Auto, il n'y a pas de prostituées légaux, là.
Disappointed!
Ah, t'es le fun.
C'est une build your own pute. C'est...
Build your own pute. Mais on peut, c'est ça, simplement se promener dans la ville ou emprunter une voiture pour des affaires officielles de la police. Là. Bref, voilà un char. Mais on dit toujours en prenant l'auto, c'est pour la police. Puis, tu sais, attention en conduisant votre voiture, hein, si vous faites une collision, ben, votre auto perd des blocs. Mais littéralement, là, perd des blocs. Mm-hmm. Puis, quand t'en perds assez, là, tu peux finir quand les autos ont une coupe de cœur. Tu n'es qu'un cœur d'habitude, il te reste une plaque, quatre roues, puis une patente qui a l'air d'un moteur. C'est quand même assez drôle. Ben, bonne nouvelle, par exemple. Si pendant une poursuite policière, vous êtes distrait, là, ou juste parce que vous regardez d'autres choses, parce que... ou parce que vous êtes un enfant de 4 ans.
ou parce que vous les enlignez. Là.
Oui. Ben, vous pouvez frapper quelqu'un avec l'auto. Ça arrive. Mais c'est pas grave parce qu'il est fait en Lego. Fait qu'il se relève 2 secondes plus tard. Puis Chase est poli. Fait qu'il lui lance des excuses en continuant son chemin.
Ça, c'est drôle, par exemple. Ouais.
Un truc le fun, par exemple, c'est que tu peux vraiment, comme littéralement, changer de char en roulant. Okay. Sur le côté d'un char, tu fais, ah, lui, il est moins pété que le mien ou il va plus vite. Puis tu pèses sur le bouton pour embarquer dans l'auto. Tu vas juste comme, jumper dans l'autre char puis continuer.
Efficace.
Efficace. Ben c'est ça. Sinon, si on revient, on parle d'un petit truc qui me dérange au niveau de l'univers du monde, c'est que si on commence une mission, on peut généralement pas vraiment se promener partout pour le fun. On est vraiment plus sur une traque à ce moment-là. Des fois, le monde est assez ouvert, pareil. Tu sais, ça veut pas dire qu'il t'empêche d'aller à quelque part, mais genre aux 40 secondes, notre téléphone sonne pour nous rappeler à l'ordre puis nous rappeler ce qu'on doit faire là. C'est, mm-hmm. Hey, t'as oublié, faut aller à telle place là. Fait qu'on comprend que quand il y a une mission qui est commencée, ça devient comme, OK, t'as pas le choix, faut que tu la fasses. Puis des fois, ça peut être un peu long avant de la finir puis de pouvoir retourner à l'exploration. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, les missions partent bien rapidement. Genre, tu t'y attends même pas. Tu dis, OK, je viens d'embarquer dans une mission. Il y a quand même un genre de truc là, qui te montre que c'est une mission qui commence, mais tu peux penser que c'était pas ça ou bon, tu sais.
Okay. Tu peux juste rouler dedans, là. Pis...
Ben, tu sais, c'est difficile de rouler dedans sans t'en rendre compte, mais tu peux faire comme, ah, je vais y aller. Puis finalement, tu te rends dans une patente qui va te prendre genre une demi-heure. Tu fais, shit, je pensais pas faire ça. Fait que ces petits éléments-là qui sont un peu. Tu sais, qui fait que le monde qui est quand même ouvert devient moins ouvert à certains moments. C'est pas la fin du monde quand même. Là. De mon côté, j'avais pas trop envie de me promener, juste me promener. Là. Je sortais de Zelda. Là, ça, c'est...
T'avais donné. Là.
Puis en fait, il n'y a pas de, autant de raisons dans Zelda de se promener. On va se promener comme ça pour le fun. Il y a des petits genres de side missions avec. Mais ça va te donner des blocs ou ça va te donner des espèces de blocs dorés qui en a comme je sais pas trop 450 puis je sais pas quoi qui servent. Ça va te donner des costumes qui sont toutes optionnels. Bref, ça peut être le fun, mais c'est pas nécessaire au jeu. Tu sais, contrairement à aller chercher des shrines dans Zelda, ce qui était comme pas le choix, là. Fait que ça ne tentait pas. Moi, j'avais le goût de faire l'histoire. C'est l'histoire qui m'intéressait dans ce jeu-là. Fait que c'était pas trop pire non plus d'être plus limité dans mon monde ouvert. Au niveau de l'histoire, justement, de se rentrer dans les détails, là, pas parce que je veux pas faire de spoiler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler de toute façon, mais c'est surtout parce qu'elle n'est pas si profonde que ça. On va se ramasser tranquillement, comme on le disait, à infiltrer des gangs de criminels pour se rapprocher du méchant Rex. Puis pour ça, on va enfiler différents costumes. En fait, au départ, on a notre soute de civil. Là, on arrive dans la ville avec un soute bien normal. On va rapidement avoir un habit de policier. L'habit de policier va nous donner des habiletés d'utiliser un espèce de scanner qui nous permet de suivre des genres de traces de pas là, qui sont des indices pour trouver des trucs. Mm-hmm. Ou d'utiliser un genre de grappling hook, là, de grappin pour monter plus haut ou tirer sur des objets en hauteur. On va après se trouver un costume de voleur qui nous permet de forcer des portes avec une crowbar ou d'ouvrir un coffre-fort avec un stéthoscope.
Puis de s'excuser de l'avoir fait tout de suite après.
Pas tout le temps.
Ah, OK.
Il y a des sous-entendus, là, des fois. Bref, je ne passerai pas au travers de tous les costumes parce que c'est un des bouts qui est le fun de découvrir. Bon, c'est quoi le prochain costume que je vais avoir puis il va me permettre de faire quoi, là.
Fait qu'au lieu, comme dans les autres jeux, de switcher de personnage, on switch de costume.
Switch juste de costume, tu sais.
C'est drôle, c'est bon.
Les catégories de costumes, dans le fond, sont débloquées au fur et à mesure que l'histoire progresse. Puis on peut trouver des costumes, des versions optionnelles, si on veut, de ces costumes-là un peu partout dans le monde en faisant les objectifs optionnels ou en les trouvant un peu random, un peu n'importe où. Puis après ça, on paye des studs pour pouvoir les utiliser. C'est ce qui est le fun, c'est que ces versions-là sont vraiment optionnelles. Ils servent pas à rien. Que tu prennes le voleur qu'il te donne au début avec la fameuse tuque noire puis le petit masque ses yeux, ou que tu prennes le voleur qui est le gars qui a l'air de sortir directement de la mafia, ou l'espèce de garde du corps que tu te bats compte à la fin qui est une espèce de copie de l'agent Smith là. Mmh. T'as la même maudite crowbar puis les mêmes, tu sais, c'est juste visuel. C'est le fun, puis c'est pas obligatoire, ce qui rend ça encore, à mon avis, plus le fun pour quelqu'un qui s'en fout un peu. Mm-hmm. Point positif pour les costumes très, très redneck qui sont en lien avec le saut de fermier, là, de toute beauté. par contre, le bout peut-être un peu moins amusant avec ces costumes-là, c'est que dans les différents tableaux qu'on va passer au travers des missions, il y a des trucs optionnels à ramasser qui sont pas nécessaires, mais qui vont te donner là, genre les espèces de blocs dorés, puis des points, puis tout ça. Qu'on peut pas ramasser au moment où est-ce qu'on les trouve parce que ça nous prend un costume qu'on pogne plus tard dans le jeu.
Ouais.
Tu sais, c'est une espèce de façon un peu. Une façon assez poche, je trouve, de nous faire. De rajouter de la rejouabilité, des gros guillemets, à un jeu là, qui sinon on n'aurait pas tant. Fait que tu sais, c'est comme ah, je suis en première mission, j'ai pas ce costume-là. Puis là, t'arrives à la fin du jeu, OK, ça me prenait cette soute-là pour avoir ça. Mm-hmm. Je vais te revenir. Et puis là.
Non, pas vraiment.
Dans mon cas, moi, la réponse est non. Si j'étais un kid de 8 ans, peut-être parce que genre j'aurais le goût d'y rejouer, puis c'est ça avoir 8 ans. Là. Mais bon, c'est comme un petit aspect que je suis comme, alors c'est poche, là, puis j'ai pas le goût de revenir à la mission du début pour faire une patente qui me prenait le dernier saut.
Mm-hmm.
Bref, on a un bon petit jeu d'aventure quand même, avec une profondeur de mécanique assez intéressante. Ça crée des puzzles, ces histoires-là de costumes, puis à la fin, quand t'as tous les costumes, je pense qu'il y en a 8 ou 9, en tout cas dans ce bout-là, je veux dire, il faut que tu switches de costume souvent, là, OK, là, j'ouvre une porte avec ça, OK, là, j'ouvre telle affaire avec ça, puis t'es tout le temps en train. C'est pas un puzzle comme il faut que tu y penses. Là, tu vois le logo du costume que ça te prend, mais tu sais, il y a comme un. C'est des mécaniques qui deviennent là, puis sont quand même assez ancrées, qui font que ça devient intéressant. Là. Niveau de difficulté, c'est bas, là. C'est niaiseux.
C'est inexistant.
Tu sais, puis même chose pour la complexité des puzzles, comme je l'ai dit, mais en même temps, tu l'acceptes. C'est un jeu pour les enfants, tu le sais. Tu sais, les seules fois où est-ce que j'ai perdu, genre, où est-ce que je suis. Mettons, j'ai comme failé une mission, c'est parce que. Genre, c'est. T'sais, j'appellerais pas ça un bug, mettons, mais un problème de programmation où est-ce qu'il fallait que je suive un gars, il sauvait, lui, il avait, je sais pas trop, une flotte, puis moi, je le suivais en camion, ou vice-versa. Puis, tu sais, ça arrive une couple de fois qu'en tournant un coin, il est rentré en collision avec un autre char random, il a tombé sur le côté, son affaire a explosé. Puis, hey, j'ai failli la mission parce que lui, il s'est crashé, calice! Mais c'est pas mal ça.
Ouais, ouais.
Ou une fois que tu fais comme, ah, faut que j'aille là, oh shit, j'ai passé à côté du pont, plouch, dans l'eau. Bon, OK. Mais tu sais, c'est pas un niveau discuté très, très élevé. Bon, c'est correct. On l'accepte. C'est un jeu pour enfants. Par contre, ce qui fait que le jeu, c'est une réussite pour moi, puis j'ai pas encore parlé de ça jusqu'à maintenant, Puis c'est peut-être ce qui fait la renommée de ces jeux Lego-là, c'est l'humour puis la quantité abusive de références à tout qu'il y a dans ces jeux-là. Le jeu commence, tu sais, à peine, tu es dans cinématique du début, puis tu as droit à une référence de Titanic quand le capitaine qui te fait rentrer au port, genre, fait de la drift avec son bateau, là, genre. Oui. Puis t'as une gang de tweets en avant de Titanic qui tombe dans l'eau avec un Wilhelm Scream en plus. Ah! Ça commence de même, ça donne le ton, tu sais. Après ça, ben, on se commence au poste de police, un gag de Dirty Harry, Columbo qui pop, Sherlock Holmes qui est là, qui a un gag de Elementary, comment il s'appelle, là? Les deux policiers style 70s, là, Starsky Hutch, ouais. Tout le monde est là, c'est sans arrêt, là. J'en ai quand même identifié quelques-unes de mes préférées, là, des références assez poussées. Tu sais, que si t'es un kid, c'est clair que tu pognes pas, mais que le parent qui joue avec va être là puis va comprendre le gag. Ici, c'est un personnage en prison du nom de Blue.
Okay.
Donc très, très le Shawshank, là, qui répond à... C'est juste à la fin de la discussion qu'il y a avec ton personnage. Toi, tu t'en vas, puis là, il y a un dude random qui arrive.
Are you free, man?
No. No, I am not Freeman. His lawyers might be watching.
Aïe aïe!
C'est genre, sur le nez, là. Mm. Non, je suis pas Freeman, parce qu'il parle pareil, il est juste blanc, jaune.
Oh, oui, bien sûr, bien sûr.
Avec un gag de smuggler des affaires en prison, là, genre, il y a comme deux doux qui arrivent avec un gros gâteau, puis...
Fait que même dans la référence à Shawshank, le bonhomme, il est jaune.
Ah oui.
Calisse.
c'est du yellow washing.
C'est vraiment du yellow washing.
Ici, ben, je vous laisse deviner la référence. C'est pas très difficile à trouver, là.
I know kung fu. Show me. And plumbing.
Après avoir appris le kung fu avec un disque audio,
ben oui.
Parce qu'on va voir un kung fu master pour nous apprendre à se défendre contre les ennemis, parce qu'au début du jeu, le combat est vraiment comme... plate, puis il se passe rien, tu sais. Puis là, t'apprends le kung-fu, t'as des contre-attaques. Puis ça rend le combat quand même relativement intéressant, là, mais très, très niaiseux, en fait. Là, parce que tes contre-attaques, genre... Sans discuter, là, genre, c'est dur de perdre. C'est quand même... Tu peux te faire frapper, mais c'est bien dur de vraiment perdre. Mais le combat est quand même le fun. C'est beaucoup de contre-attaques. Tu contre-attaques, tu le pitches. Quand tu pitches les ennemis à terre, tu leur mets les menottes pour les mettre hors d'état de nuire. Mm-hmm. Puis quand il en reste un... ou que les ennemis sont un peu plus forts, tu mets pas les menottes, et genre tu fais une dernière contre-attaque, puis tu vas faire une attaque conne, genre tu te mets à spinner sur toi-même, ou tu te fais le basic, là, me coucher sur le dos avec le gars qui spin, ou tu fais juste le regarder, le gars, puis là il donne des coups dans le vide, le méchant, puis là tu fais juste le pousser. Bref, t'apprends le kung-fu avec un kung-fu master qui est plombier aussi.
Bien sûr.
Parce que... Mm-hmm. Fait que d'où le plombier. Il y a un contre-maître un peu plus loin dans le jeu qui sonne vraiment comme un certain acteur autrichien.
Are
you stupid? Somebody, get him to the chopper. I'm in hospital.
Hey, colleague, c'est on the nose, là, c'est pas subtil.
Puis dans le fond, parce que là, tu t'en vas assez de. Faut que t'ailles voler une grue sur le chantier de construction en étant infiltré dans une gang parce qu'ils veulent une grue. Mm-hmm. Puis là, ben, il dit ben là, tu peux pas aller sur le chantier sans avoir un seau de construction.
You, give him your clothes, your helmet. And your hammer!
Puis ça, c'est sans parler de tout le temps où est-ce que t'es dans le chantier de construction, puis dans la première partie, mettons, où est-ce qu'il te voit, où est-ce qu'il lâche des références à tous tes films, puis même des films super obscurs, là, j'ai oublié de les noter, mais des films hyper obscurs d'Arnold, genre.
Ah, je pensais qu'on allait avoir des références au YMCA.
Ça aurait pu fonctionner. On a presque tout sauf le chef indien là, dans nos costumes.
Évidemment. C'est ben trop raciste.
Y en a-tu des indiens? Je suis sûr qu'il y en a plus. Ça peut pas.
Il doit être jaune, Chris.
Ben oui. Bref, quand même, je pense que celui-là, moi, c'est.
You, give him your clothes, your helmet, and your hammer.
C'est clever, c'est clever.
Puis là, tu te dis non, je vais trouver mon propre sou. J'essaie de tout regrouper ça. Là. C'est un jeu amusant, un jeu qui se joue bien, des missions qui sont quand même intéressantes. On peut jouer en coop. J'ai pas essayé là, parce que ça prend deux manettes complètes. Tu peux pas jouer avec les Joy-Con. Une question de.
Ouais. Contrôle la caméra.
Question de contrôle la caméra, puis je peux comprendre. En même temps, il aurait peut-être pu trouver une façon parce que.
Ouais, c'est tellement un petit jeu familial où que tu pourrais parquer ça avec les petites manettes.
C'est un petit jeu familial qui se vend quand même un full retail game, là, je veux dire. Ouais. C'est pas un jeu qui est à 12$. Là. Puis là, c'est en plus, si tu veux jouer à deux, il faut t'acheter une autre manette à 90$. Ça commence à être intense. Là.
Ouais.
Bref,
ouais.
Si on oublie ça, tu sais, il aurait fallu. Mais bref, il y a quand même du co-op, puis ça doit être le fun, mais je l'ai pas essayé. L'histoire est correcte.
En fait, le co-op, par contre, c'est une des belles additions de la nouvelle version.
Oui, la Wii U l'était pas.
Exact. Ouais. C'était un gros bémol que le monde avait. C'est le seul jeu Lego qui a pas de co-op. Là.
Mais encore là, c'était peut-être une question de...
Ah oui,
absolument. Il aurait fallu qu'il requiert une manette pro, j'imagine.
Ah ouais, mais ou tout simplement des limitations techniques aussi, performance avec la Wii U, qui, peut-être avec tout ce que le jeu faisait, je sais pas là, mais il me semble que, tu sais, je peux imaginer que la Wii U était trop limitée pour faire
ça. Ouais, c'est ça. Bref, c'est une belle addition pour quelqu'un qui a déjà les deux manettes. Sinon, comme je disais, l'histoire est correcte, là, amusante, puis une quantité d'humour puis de références assez incroyable. On peut démolir des affaires en Lego puis en reconstruire. On se remet dans une ville qui ferait le rêve de n'importe quel kid, là, si tu regardes tout ce qu'il y a là qui est en Lego. Puis quand on part le jeu, ben on load ou qu'on load une nouvelle mission, là, puis il y a une couple d'autres places, on a droit à ça, qui est peut-être le meilleur point pour vendre le jeu.
On vend des jeux de la musique cette semaine.
Ouais, c'est assez fréquent. fait que pour toutes ces raisons, j'ai donné à Lego City un aquarium qui contient des poissons avec un frigo puis une télé. Mais si on pète tout ça, on peut réassembler ça. Ça fait un double decker couch avec trois bonnes pattes de 10. Good show! Donc, si vous avez envie, si vous le pouvez, vous pouvez donner un coup de main au podcast en allant au patreon.com/divanquest. Sinon, on peut trouver les épisodes au divanquest.com. Pour nous donner du feedback du mail, on peut aller sur twitter.com/divanquest, sur facebook.com/divanquest, sur divanquest@gmail.com. Le podcast, on peut le trouver avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com. On le retrouve aussi dans la playlist de Pod Québec. En passant, Pod Québec a maintenant un top quand même assez bien fait où est-ce qu'on peut upvoter un podcast qu'on écoute. Donc, on ne gère pas des petites étoiles, là, c'est quand même assez intéressant. Puis je trouve qu'on est bas là, comparé à nos amis des sorbets. Il faut aller voter. Là, on veut au moins les rattraper là, avant qu'ils se pètent la tête, ces murs, parce qu'elles entrent trop. Là.
Ah, c'est une même maison.
Ah, les écouter. Sinon, on peut aller sur iTunes, hein, cliquer les petites étoiles comme quelqu'un de nouveau a fait. Merci. Mais pas laisser de commentaires, fait qu'on peut pas savoir c'est qui puis dire pourquoi. Mais ça le tente un petit commentaire, c'est toujours amusant. Ça nous fait monter dans les ratings aussi. Sinon, ben, on se revoit dans deux semaines. Et d'ici là.
Game on!
Game on!